Merci d'écouter Inter, il est 13h. Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Le déconfinement, pour qui, pourquoi, comment? Le Premier ministre qui présentera sa stratégie de sortie de crise mardi à l'Assemblée dit vouloir la co-construire avec les élus, les syndicats, le patronat. Les consultations se poursuivent. Avec ce pavé dans la mare jeté hier soir par le Conseil scientifique qui dit avoir plaidé pour une rentrée scolaire en septembre seulement. Le Conseil scientifique qui détaille ses propositions pour le 11 mai. On en parle avec notre invité Rodrigo Arenas, co-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Pour les Républicains, il y a urgence à déconfiner, y compris pour les cafés-restaurants. Nous entendrons Éric Woerth, invité ce dimanche de questions politiques. Dans ce journal également, le débat sur l'immunité, toujours pas tranché, les avis scientifiques divergent. Sophie Bécherel nous dira ce qu'on sait et qu'on ne sait pas à l'instant présent. 200 000 masques saisis dans un pavillon de Saint-Denis. Les deux trafiquants qui faisaient des allers-retours aux Pays-Bas sont en garde à vue. En garde à vue également un jeune de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine qui livrait des cocktails Molotov prêts à l'emploi. En sport, l'équipe d'Amiens qui teste tous ses joueurs et son staff avant la reprise possible de l'entraînement. Et puis Guy Dru qui veut réformer les Jeux Olympiques, désormais trop déconnecté des réalités, dit-il. Pour l'ancien ministre et champion olympique, le budget de Paris 2024 est obsolète.
France Inter.
Le gouvernement co-construira la sortie du confinement. C'est mardi à 15h que le Premier ministre présentera aux députés la stratégie nationale du déconfinement. Mais il veut la préparer en concertation avec les élus, les syndicats et le patronat. C'est ce qu'il a précisé ce matin dans une série de tweets en expliquant la méthode. D'abord le débat et le vote des députés, puis la présentation des enjeux prioritaires de déconfinement aux élus locaux et aux partenaires sociaux. On va y revenir. Ce qui rend la tâche encore un peu plus difficile pour le Premier ministre depuis hier soir, c'est cet avis que vient de rendre public le Conseil scientifique. Un conseil sur lequel s'est appuyé l'exécutif pour la plupart de ses décisions depuis le début de l'épidémie et qui cette fois donc souligne un désaccord sur le retour à l'école à partir du 11 mai. Le Conseil scientifique aurait préféré reporter la rentrée à septembre, mais Daniel Messager, il a pris acte de cette décision et il fait donc en conséquence un certain nombre de propositions concrètes.
Les conditions minimales d'accueil dans les écoles sont détaillées dans une note et même si le Conseil souligne qu'il n'y a pas d'épidémie documentée dans les établissements scolaires, sauf à Crépy-en-Valois, ce sont néanmoins des lieux de regroupement massifs. Il convient donc d'abord d'établir un principe de volontariat et non d'obligation. À partir du collège, enfants et personnels devront porter un masque. Les élèves de classes différentes ne doivent pas se croiser. Il est préférable que les enfants déjeunent dans leur classe à leur table, tables qui devront être espacées d'au moins un mètre. Les parents sont invités à prendre la température de l'enfant avant le départ pour l'école. Ils ne pourront pas pénétrer ni stationner devant l'enceinte scolaire. Et bien sûr, le conseil insiste sur les mesures d'hygiène, lavage des mains, nettoyage des portes, interrupteurs plusieurs fois par jour.
Alors s'agissant des déplacements par transport en commun, pas de problème si les mesures barrières sont respectées, Daniel.
Alors d'abord, le Conseil préconise une sortie sur l'ensemble du territoire et pas par région, qui ne serait pas réaliste. Dans les transports urbains, il faudra maintenir les mesures barrières. Elles seront plus faciles à mettre en place si le télétravail se poursuit, ce qui limitera les déplacements de personnes, de même pour les interrégionaux. Pour les commerces, artisans, privilégiez une présence qui ne dépasserait pas la moitié des employés, avec utilisation de masques, le tout étant accompagné de tests pour une identification rapide des cas, d'équipes mobiles pour tracer les contacts de personnes infectées et de lieux d'hébergement pour celles ne souffrant que de formes bénignes. La sortie doit être progressive, la résurgence de l'épidémie pas exclue.
Daniel Messager, le Conseil scientifique met en garde contre un relâchement trop soudain des mesures de contrôle, tout en reconnaissant qu'une adhésion de la société aux mesures strictes de confinement serait difficilement acceptable dans la durée. Façon de dire que la ligne de crête est étroite entre l'impératif sanitaire d'un côté, l'impératif économique, social et sociétal de l'autre, d'où les consultations tous azimuts de l'exécutif depuis de nombreux jours, à charge bien sûr pour Emmanuel Macron de rendre demain, ces derniers arbitrages. Laurence Perron, il y a encore quelques sujets qui sont en débat au plus haut sommet de l'État.
Oui, pas mal de zones d'ombre, hein, même si on sent bien que Matignon, qui assurait la semaine dernière que le plan serait prêt quand il serait prêt, Matignon a mis le turbo. Annonce hier soir de la présentation d'un plan mardi, 15h, au Parlement, suivi d'un vote, vous l'avez dit. Des éléments savamment distillés ce matin dans la presse papier. Et vers 9h ce matin, Édouard Philippe, qui n'est pas un fanatique des réseaux sociaux, s'est fendu d'un tweet pour dévoiler ses 6 axes de travail. La santé, donc les masques, obligatoires ou non, les tests, l'isolement, l'école, le travail, les transports, le commerce et les rassemblements. La méthode, répète Matignon, c'est celle annoncée jeudi par Emmanuel Macron dans sa visioconférence avec les maires. Un déconfinement adapté au territoire, donc pas par région. Une scolarisation progressive, si les parents l'acceptent. Et voilà qui fait déjà bondir nombre d'élus. C'est nous qui allons prendre des baffes en cas de seconde vague, estimait ce matin un maire d'une grande ville. Sur la reprise du travail et des transports, le Premier ministre va esquisser des réponses. Sur les grands rassemblements aussi. En revanche, deux points encore en suspens. La réouverture des cafés, hôtels, restaurants et les vacances des Français. À moins d'une nouvelle accélération surprise, il n'y aura pas de réponse avant au moins mi-mai sur ces sujets très très épineux.
Laurence Perron, la période est propice au tâtonnement de tous côtés. Hein. C'est une situation inédite pour tout le monde, évidemment. Les Républicains ont également élaboré leur stratégie pour le déconfinement. Étape indispensable que la France doit réussir, écrit le Parti Républicain, dont les propositions sont reprises dans le JDD, avec cette différence notable par rapport au gouvernement. On vient d'en parler, une réouverture de certains cafés-restaurants dès le 11 mai. C'est ce que proposent les Républicains, pour qui il y a urgence maintenant à sortir de cette situation. Le député Éric Woerth, président de la commission des finances de l'Assemblée, était à l'instant l'invité de Questions politiques sur France Inter.
Oui, il y a urgence. Évidemment qu'il y a urgence. Non pas à retrouver exactement la vie d'avant, tout ça sera très progressif, mais il y a urgence à déconfiner sur le plan économique. Sinon, le chômage partiel, il va se transformer en chômage réel et nous allons vivre un crack social. Donc, il faut tout faire pour éviter cela. En même temps, en respectant et en mettant en œuvre des mesures de protection individuelle, claires, sinon l'esprit ne pourra pas être respecté. Donc le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale propose un certain nombre de choses. Nous sommes dans l'opposition, donc notre rôle, c'est évidemment de proposer. Oui. J'espère que le gouvernement s'en inspirera.
Éric Woerth avec Ali Badou donc sur France Inter. Et puis à l'instant, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, demande de son côté un délai de 24 heures entre le moment où le Premier ministre présentera son plan et le moment où les députés devront le voter. 24 heures, autrement dit, un report. Il demande un report du vote à mercredi. Pour la gauche, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités sur ce déconfinement. En tout cas, sur la décision de remettre les enfants à l'école, par exemple, dont le gouvernement veut laisser le choix aux parents, mais tous auront-ils les moyens de choisir? C'est la question que veut souligner Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
Il est assez irresponsable de la part du gouvernement de dire que c'est les familles qui vont choisir ou pas si on met les enfants à l'école. Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont en chômage partiel, ils bénéficient d'un arrêt maladie, et il est clair que ce dispositif va cesser à partir du 11 mai. L'employeur va demander à ses salariés de retourner au travail. Comment vont choisir les familles entre aller au travail ou garder les enfants? Il suffit pas de féliciter nos héros qui font tourner l'économie pendant cette période de confinement et continuer à les exposer encore plus largement. C'est ça qui est en train de monter. Face à ça, le gouvernement, on l'a vu, a donné ordre, contre-ordre et surtout désordre. Donc, il y a une grande majorité de la population qui voit cette date du 11 mai avec beaucoup d'inquiétude. Et on les comprend.
Alexis Corbière avec Laurence Perron. À chacun sa vérité, d'un pays à l'autre également, les décisions varient. En Italie, le chef du gouvernement Giuseppe Conte promet la réouverture des écoles en septembre pour ne pas mettre en jeu la santé des enfants. Il dit envisager un plan de déconfinement général et de reprise des activités industrielles à partir du 4 mai. Et puis en Espagne, les enfants confinés depuis 6 semaines bénéficient ce dimanche d'un premier assouplissement, une autorisation de sortie d'une heure par jour à condition de rester à moins d'un kilomètre du domicile. Invité de ce journal, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour.
Bonjour.
Alors la FCPE n'était pas opposée à la reprise des cours à partir du 11 mai, à certaines conditions, bien sûr. Cet avis du conseil scientifique pour une rentrée qu'il aurait préféré voir en septembre, change-t-il votre façon de voir?
Il change notre façon de voir parce que c'est ce que nous avions compris dans les pratiques à la fois du chef de l'État et du gouvernement par rapport aux décisions qui doivent être prises. Donc effectivement, quand le conseil scientifique dit que les écoles ne peuvent pas reprendre à partir du 2 septembre, évidemment qu'il faut le suivre. Et on voit bien que dans le deuxième avis, c'est plutôt la décision politique qui s'impose et que les préconisations qui sont faites pour le retour à partir du 12 pour les enfants, le 11 pour les enseignants, c'est un peu faire contre mauvaise fortune de mon cœur.
Alors malgré tout, donc parmi ces propositions du Conseil scientifique, est-ce que tout vous paraît réalisable, réaliste?
C'est pas à nous de déterminer si le Conseil scientifique a raison ou tort. Nous avons, a priori, depuis le début, fait confiance au Conseil scientifique, mais on regarde aussi ce qui se passe à l'étranger. Et on voit bien que là où ça déconfine, ça reconfine plus durement derrière, ce qui invite notamment des pays qui sont plutôt proches de la France, d'ailleurs au niveau de l'organisation, à plutôt ne plus déconfiner avant septembre pour les enfants. La question qui se pose, c'est pas comment on doit rentrer l'école, de comment est-ce qu'on doit rouvrir les écoles, mais c'est pourquoi faire. Pourquoi est-ce qu'on doit rouvrir les écoles? Si la question, c'est s'occuper des enfants qui sont dans les situations les plus précaires, eh ben, disons-le. Mais à ce moment-là, on voit bien que ce ne sont pas les préconisations du Conseil scientifique qui vont régir, mais des objectifs à atteindre. Et force est de constater que, vu comment ça se met en œuvre, nous sommes loin d'atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, on voit bien dans les quartiers notamment, ce qui s'organise, c'est le système D, les maires qui appuient aussi le relais d'associations qui font manger des gens aujourd'hui. C'est ça la réalité dans les quartiers.
Mais raison de plus pour que l'école rouvre, ne serait-ce que pour la distribution des repas le midi?
Absolument. D'ailleurs, nous préconisons depuis le début de faire des écoles non pas des lieux scolaires, puisque ceux qui préconisent de reprendre l'école sont des cyniques ou des menteurs. En tout cas, ce que nous préconisons, c'est que les écoles deviennent des lieux d'accueil, aussi avec des professionnels qui peuvent prendre soin des enfants qui vont mal. Ce n'est pas le métier des enseignants qui est assistante sociale pour les familles qui sont en précarité. Ce n'est pas le métier des enseignants que d'écouter les enfants qui sont confrontés au deuil, c'est le métier d'un psychologue. Et ce n'est pas le métier non plus des enseignants de, comment dire, prendre en charge les enfants qui ont été victimes de violences. Ça, c'est l'ASE et un juge pour enfants. Donc il faut arrêter de faire porter à l'école une mission qui n'est pas la sienne, que ce soit un lieu d'accueil, y compris avec celles et ceux qui sont formés notamment aux techniques d'animation, où cela, c'est une bonne chose. Pareil, on peut aussi ouvrir des centres aérés de loisirs ou de vacances qui sont excentrés pour les familles notamment qui vivent dans la promiscuité et dans des logements insalubres. Voilà quelle est l'urgence. L'urgence, elle est avant tout sociale. Le scolaire, croire qu'on va rattraper en 2 semaines ou rouvrir pour ces enfants-là est un leurre. Le rattrapage scolaire se fera sur plusieurs années, voire plusieurs mois en fonction des objectifs, et il faut se préparer aujourd'hui à la rentrée de septembre en formant les enseignants à l'enseignement à distance, qu'on reprenne confiné ou pas.
Alors là, la rentrée du 11 mai se fera quoi qu'il en soit sur la base du volontariat. Est-ce que pour vous, les familles, enfin dans beaucoup de familles, y aura-t-il vraiment le choix?
Aujourd'hui, les familles qui vont mettre les enfants à l'école sont celles qui n'ont pas le choix. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui encore. On a l'impression que tous les parents ne sont pas au travail, excusez-moi, mais il y a les infirmières, c'est des parents aussi. Les médecins sont des parents aussi. Ceux qui font tourner les transports, même à rythme ralenti, sont des parents aussi. Donc il y a un accueil qui a été organisé, donc cet accueil doit continuer, notamment pour parce que le pays continue. Mais en tout cas, il faut le prendre avec des professionnels qui accompagnent et préserver la santé de tout le monde. Et donc ça, ce n'est pas l'école, c'est autre chose qu'on est en train d'inventer qui, dans l'urgence. Mais cette invention n'est pas la normalité non plus. Donc il va falloir faire en sorte que cet arbitrage des parents ne soit pas un arbitrage financier, car à compter du 1er mai, le ministre du Travail et celui du Budget doivent annoncer des mesures sérieuses pour que les parents qui décident de garder les enfants ne se traduisent pas par une baisse de revenus.
À votre connaissance, vers quoi s'orientent vos adhérents? Est-ce que vous avez déjà une petite idée?
Alors nous, c'est pas que les adhérents, c'est aussi les parents, puisque nous avons ouvert des forums gratuits sur notre site internet où les gens viennent s'exprimer, chercher des renseignements. On a l'impression d'être le service après-vente du ministère aussi, il faut le dire un petit peu à la FCPE. Mais en tout cas, ce qui s'oriente, c'est plutôt non le 11 mai, on garde les enfants. Non pas parce qu'on est en apéro permanent ou que les parents tout à coup se sont mis en vacances. Ça, c'est une idée reçue qui est insupportable et irresponsable. C'est simplement que les parents gardent les enfants parce que pendant 5 semaines, on a dit que c'était les enfants qui contaminaient le reste de la société, et donc les enfants aussi sont inquiets de là-dessus. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui disent clairement « je ne veux pas retourner à l'école parce que je vais rendre malade ma maîtresse ». Donc vous avez ce lien affectif qui s'est créé dans la séquence, c'est cela qu'il faut préserver dans l'ouverture des écoles et non pas de reprendre l'école, c'est de garder ce lien qui s'est noué de façon à ce que la réalité ne soit pas susceptible d'angoisse, mais qu'elle soit susceptible juste de créer ce lien d'amour qui s'est créé entre tous les Français, et en particulier entre les élèves et leurs enseignants dans cette séquence, enseignants à qui il faut rendre hommage, disons-le, une fois pour toutes.
Un dernier mot, les masques obligatoires dans les collèges et les lycées, réalistes?
Alors écoutez, les masques, ça se fait notamment dans les pays qui ont été frappés du SRAS, notamment les pays d'Asie du Sud-Est, où les enfants mettent des masques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un apprentissage, et que nous ne croyons pas une seconde qu'on soit en mesure en France d'apprendre à utiliser des masques de façon magique en un ou deux jours, en sachant que dans les pays auxquels je vous cite, notamment le Japon ou d'autres, on a mis du temps à leur apprendre aux enfants à utiliser. Le masque, comme le reste, c'est un apprentissage. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions réclamé dans les vœux 2020 à la FCPE qu'un plan national de réparation et de mise en norme des toilettes en France soit une réalité. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des écoles en France qui ne permet pas aux enfants de se laver les mains correctement, en tout cas certainement pas en période d'épidémie.
Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, merci beaucoup.
Merci à vous.
En même temps que le plan de déconfinement, le Premier ministre fera connaître mardi ses propositions sur l'appli Stop Covid, le traçage numérique des malades. Sur ce point, la CNIL demande ce matin des garanties supplémentaires sur la protection de la vie privée, notamment qu'il ne puisse pas y avoir de conséquences négatives pour ceux qui refuseront d'utiliser l'appli, qui ne devront pas être discriminés dans leur accès aux tests, aux soins ou même aux transports. La Commission nationale informatique qui met en garde contre la tentation du solutionnisme technologique et qui donnera son avis définitif après le vote du Parlement. Alors l'une des clés d'un déconfinement réussi, quoi qu'il en soit, la meilleure façon d'éviter une deuxième vague épidémique, outre la distanciation sociale, c'est bien sûr l'immunité collective, autrement dit le pourcentage de la population ayant déjà rencontré le virus et dont on pense qu'elle ne présente alors plus aucun risque pour elle ou pour les autres. C'est là que le bât blesse, c'est qu'on n'en sait toujours rien. Il n'y a aucune preuve, a dit l'OMS, pour qui la mise en place d'un passeport immunitaire n'a donc pas d'intérêt. C'est ce que disaient aussi les autorités médicales françaises il y a peu, mais il y a 4 jours, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, s'était montré moins pessimiste. Alors qui croire, Sophie Bécherel? Que sait-on vraiment sur cette possible immunité?
Eh bien, quand on a été infecté par le virus, on développe des anticorps. On les appelle des immunoglobulines. Elles sont de deux types. D'abord les IgM, puis les IgG, dont l'intérêt, c'est qu'elles neutralisent le virus. Selon l'Institut Pasteur, cette immunité arriverait dès le 5 ou 6e jour, mais de façon plus forte au-delà du 14e jour, voire 3 semaines. Mais est-ce que cette immunité marche à tous les coups? Est-ce qu'elle protège d'une réinfection? Et est-ce qu'elle empêche une personne ayant été malade d'en infecter une autre? Ces questions comportent beaucoup d'inconnus encore. En effet, le virus est apparu trop récemment pour que le chercheur ait assez de recul. Ils ont certes isolé les anticorps, mais on ne sait pas combien de temps ils nous protègent. On sait que pour d'autres coronavirus, comme ceux qui provoquent le rhume en hiver par exemple, on n'est pas immunisé une bonne fois pour toutes. Pour le SRAS de 2003, coronavirus émergent, l'épidémie a disparu trop tôt pour, là encore, qu'on ait des certitudes. Avec ce SARS-CoV-2, en laboratoire, les anticorps empêchent une recontamination, mais sur l'homme, sur une population complète, eh bien, on ne sait pas. Voilà qui explique des messages parfois contradictoires. Pour autant, il y aura bientôt à disposition des tests d'immunité, basés sur des tests sanguins, donc. On fait une prise de sang ou on utilise une bandelette. La liste de ceux qui sont fiables devrait être rendue publique en début de semaine. Alors, c'est vrai qu'ils permettront de savoir qui a été en contact avec le virus, mais ils ne garantiront pas à ces personnes qu'elles ne peuvent pas être réinfectées ou qu'elles ne peuvent pas transmettre le virus. On le comprend, les gestes barrières et le port du masque s'imposent donc plus que jamais.
Sophie Bécherel, en attendant l'immunité, il faudra effectivement porter des masques. Les masques grand public qui peuvent être dès à présent vendus en pharmacie, c'est officiel. L'arrêté du ministère de la Santé vient d'être publié au JO. Ce qui mettra peut-être un terme à la chasse aux masques ou au trafic. 200 000 masques de protection ont été saisis à Saint-Denis, annonce ce matin le parquet de Bobigny. 2 personnes de 46 et 50 ans ont été placées en garde à vue, Emmanuel Leclerc.
C'est une patrouille du commissariat de Saint-Denis qui est tombée par hasard hier soir sur ce drôle de déchargement. 2 hommes âgés de 46 et 60 ans en train de décharger d'une camionnette des dizaines de cartons devant un pavillon et donc pas du tout dans les locaux d'une classique PME de la banlieue parisienne. Ce flagrant délit a effectivement conduit à la plus importante saisie de masques de protection depuis le début du confinement. Les 2 suspects ont été placés en garde à vue. Le parquet de Bobigny a confié l'enquête à la sûreté départementale. Une enquête ouverte pour travail dissimulé, pratiques commerciales trompeuses et surtout détention de marchandises contrefaites. Selon une source proche du dossier, les masques saisis s'apparenteraient surtout à des masques de chantier. Si l'objectif d'une vente sous le manteau ne fait aucun doute, les policiers veulent savoir si les 2 hommes interpellés voulaient les vendre au prix de masques sanitaires, ce qui est évidemment beaucoup plus grave. Les 2 suspects, selon nos informations, ont également déclaré qu'ils s'étaient fournis aux Pays-Bas sans passer par un intermédiaire via un grossiste. Ils sont allés eux-mêmes récupérer la marchandise. Ils ont donc effectué un go-fast comme les trafiquants de drogue, mais cette fois pour des masques.
Emmanuel Leclerc, tout est matière à business, y compris les violences urbaines. Dans les Hauts-de-Seine, ce n'est pas dans le trafic de masques, mais dans la livraison de cocktails Molotov que s'était lancé un jeune livreur, employé d'Amazon, dont il utilisait d'ailleurs le véhicule. Il proposait sur les réseaux sociaux des cocktails Molotov prêts à l'emploi. 6 euros les 5 et 10 euros les 10, Ariane Grissel.
Pour lancer son marché, cet homme âgé de 26 ans passe par les réseaux sociaux, promotion à l'appui, 6 euros les 5 cocktails Molotov prêts à l'emploi, 10 euros les 10, des bouteilles de bière remplies d'essence et équipées d'une mèche. Pour assurer la livraison de sa marchandise, cet employé d'Amazon utilise le véhicule fourni par l'entreprise pour son travail officiel. C'est ce qui finit par le trahir. En analysant les images de vidéosurveillance des heures survenues à Gennevilliers, les enquêteurs sont intrigués par cette fourgonnette, encore plus quand ils se rendent compte qu'elle sert à déposer une caisse à des personnes soupçonnées de participer au trouble. Au domicile du livreur, les policiers découvrent des bouteilles de bière de la même marque que celle ayant servi au cocktail lancé pendant les heures, le même tissu pour les mèches et du matériel pour fabriquer des engins incendiaires. L'enquête va maintenant viser à déterminer combien de cocktails Molotov le suspect a réussi à écouler et dans quel périmètre. Deux hommes soupçonnés de l'avoir aidé dans son entreprise ont également été mis en examen et écroués.
Ariane Grissel.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
À l'étranger, l'Arabie Saoudite assouplit son confinement. La Mecque, en revanche, reste sous couvre-feu. Les autorités du royaume annoncent également la réouverture de certaines activités commerciales. À partir de mercredi, les rassemblements de plus de 5 personnes restent toutefois interdits. En Israël, où l'épidémie a fait 200 morts, le déconfinement se fait aussi très progressivement depuis une semaine maintenant. Ce matin, deuxième phase, les petits commerces, coiffeurs et salons de beauté peuvent rouvrir dans des conditions d'hygiène strictes. Évidemment, l'amende là-bas est à 500 euros. Le port du masque est obligatoire. Mais chose étonnante, le marché de Marné Yehuda, au cœur de Jérusalem, reste fermé au grand dam de ces commerçants qui manifestaient ce matin leur colère. Reportage de notre correspondant Frédéric Mettezou.
Un concert de casseroles pour demander la réouverture du chouk. Sophie est restauratrice. Les restaurants israéliens peuvent rouvrir pour faire des plats à emporter, mais pas elle, car son établissement est à l'intérieur du marché.
Personne n'a le droit de travailler. C'est très très dur et je ne sais pas si nous pourrons tenir, si ça dure encore.
Les gérants des commerces n'ont aucun filet de sécurité. Leurs employés peuvent bénéficier du chômage partiel financé par l'État à condition d'avoir été déclarés. Mais au chouk, beaucoup travaillaient au noir. La situation est difficile, raconte Tali Friedman, la porte-parole des commerçants.
Ici, des vendeurs n'ont plus rien à manger chez eux. Des vendeurs sont au bord du gouffre. On manifeste parce que les supermarchés peuvent ouvrir, mais Marné Yehuda et le reste des marchés en Israël restent fermés.
En temps normal, plusieurs commerçants affichent le portrait du Premier ministre. Mais là, Bibi, c'est son surnom, n'est plus un héros.
Bibi, avant chaque élection, tu viens à Marné Yehuda. Bibi, on ne votera plus pour toi, Bibi, enfoiré.
Le gouvernement promet un plan d'aide de 4 milliards d'euros pour les PME et auto-entrepreneurs avec des prêts allant jusqu'à 80 000 euros. Mais les commerçants de Marné Yehuda demandent à voir et vite. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
À l'étranger, encore un mot du Nigeria où le gouverneur de l'état de Lagos impose à partir d'aujourd'hui le port du masque dans Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants. Les habitants de Lagos et de la capitale fédérale Abuja sont confinés depuis fin mars. Le coronavirus a fait officiellement 36 morts au Nigeria. L'Afrique, dans son ensemble, reste encore moins touchée que la plupart des autres régions du monde avec 1330 décès. Officiellement, notamment, c'est le bilan le plus lourd en Algérie et en Égypte. Et si le coronavirus entraînait une réforme totale des Jeux Olympiques? Plus qu'une réforme, c'est une révolution que propose l'ancien champion olympique du 110 mètres haies, ex-ministre des Sports et membre du CIO, j'ai nommé Guy Drut, dans une tribune publiée sur franceinfo.fr. Il appelle à repenser le projet Paris 2024 qui lui paraît aujourd'hui obsolète, dépassé et déconnecté de la réalité, rien que ça.
Moi, j'ai participé pour la 6e fois à ce projet, qui était un superbe projet, qui est estimé à 6,8 milliards. 3,8 milliards pour l'organisation et 3 milliards pour les équipements. Cette étude est devenue obsolète parce que, devant toutes les énormes difficultés auxquelles le monde doit répondre aujourd'hui, je crois qu'il nous appartient d'être encore plus rigoureux sur le plan budgétaire. Quel Français pourrait comprendre que le moindre euro dépensé ne soit pas utile et justifié? Paris a su profiter, les politiques ont su profiter justement de ces différentes candidatures pour équiper la France. Et la région parisienne a tout ce qu'il faut. Il y a le Stade de France, il y a Bercy, il y a le Golf, il y a etc. Et Roland-Garros, etc., etc. Donc ce qui est fait n'est plus à faire. Et je crois que le plus difficile aussi aujourd'hui, ce sera de respecter l'équilibre entre le sport qui se pratique et le sport qui se regarde simplement à un moment de la vie, mais qui reste important, surtout quand on parle des Jeux Olympiques.
Guy Drut avec Matteo Maestrachi. Avant Paris, il y aura bien sûr les JO de Tokyo, reportés en 2020 et qui se dérouleront, cela, suivant la tradition. En attendant les Jeux, c'est toujours l'incertitude en France pour la Ligue 1 de football, à commencer par la reprise des entraînements dès le 11 mai. Possible, si les joueurs ont pu être testés, un club au moins a devancé l'appel. L'Amiens SC, le premier à annoncer avoir testé l'ensemble de son effectif et de son staff. François Sauvestre.
Bernard Joannin, le président de la SC, le confirme. Tous les joueurs et le staff de l'effectif professionnel, ainsi que toutes les personnes qui entourent l'équipe, ont subi des tests PCR, c'est-à-dire des prélèvements dans la gorge, le nez et des tests sérologiques. C'était vendredi. Dans quel laboratoire? On ne sait pas. Le club reste discret car la manœuvre peut étonner quand on sait qu'Emmanuel Macron lui-même a indiqué que tester des personnes asymptomatiques n'était pas nécessaire. Reste qu'à la SC, on a voulu anticiper une reprise toujours théorique de l'entraînement le lundi 11 mai, date du début du déconfinement. Une fois que les résultats seront connus, le club pourra savoir qui peut rechausser les crampons et qui doit rester confiné. Ces tests feront partie du protocole de reprise établi par la Ligue de football professionnel, la LFP, qui a d'ailleurs félicité l'ASC de cette anticipation.
En bref, il était une figure dominante de la littérature scandinave du XXe siècle, le suédois Per Olof Enquist est mort hier à l'âge de 85 ans. Ses livres ont été traduits dans le monde entier, notamment son roman sur la folie du roi Christian VII du Danemark, le médecin personnel du roi, livre qui lui avait valu en 2001 le prix du meilleur livre étranger. Allez, pour se changer les idées maintenant, une petite dose d'Astérix. C'est en octobre que sortira le prochain album, pas tout à fait comme les autres, tiré d'un livre audio de 1967. À l'époque, c'était encore un 33 tours vinyle. Le Menhir d'or sera cette fois reproduit en album, en partie illustré. L'idée, Jacqueline Pétroz, c'est d'entretenir la flamme, bien sûr, entre deux inédits. Menhir
montant. Cette aventure du bar d'assurance Tourix est aujourd'hui méconnue, elle était un peu oubliée. Le Menhir d'or ne s'est vendu que sous forme audio. L'histoire est celle d'un télécrochet très en vogue dans les années 70 et de retour depuis les années 2000, où se présente le barde pour gagner la récompense suprême, un menhir d'or. Astérix et Obélix l'accompagnent bien sûr, mais sur le chemin du retour, assurance Tourix disparaît.
Regarde par terre, des traces de pas, on s'est battu. Et ce casque est un casque de centurion romain. Les Romains ont enlevé assurance Tourix.
Oh, ils sont fous ces Romains.
Tiens, regarde l'immatriculation dans le casque. Deuxième corps, première centurie, camp de Babaorum.
Nos braves héros iront donc le chercher dans le camp romain, toute bave dehors. En octobre, ce disque de 30 minutes deviendra un album de 44 pages. Le texte de Goscinny, intégralement reproduit, sera accompagné des 14 illustrations réalisées alors par Uderzo. C'est un petit trésor qui ravira les fans. Ce sera aussi un moment d'émotion. C'est la dernière participation directe à l'aventure d'Astérix d'Albert Uderzo. Il avait supervisé la restauration des dessins et donné son aval pour la couverture avant sa mort le 24 mars dernier. Le Menhir d'or sera tiré à 100 000 exemplaires. Il y aura également une version audio qui du coup ne nous épargnera pas le chant d'assurance Tourix.
C'est là que j'ai retrouvé mon âme toute.
Non, tu ne chanteras pas Assurance Tourix. Non, tu ne chanteras pas.
Menhir d'or et sa chanson Menhir montant, Assurance Tourix en vedette. Dans un instant, Denis Chessou.